Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet Escapadez-vous consacré aujourd'hui au week-end de mobilisation Bloc Ton Périph qui a eu lieu ces 14 et 15 octobre dans la garrigue au nord de Montpellier, plus précisément du côté de Saint-Gély-du-Fesc et Combaillot. Durant tout ce week-end de mobilisation, plusieurs centaines de personnes sont venues sur le tracé du lien, la liaison intercantonale d'évitement nord près de Montpellier, à l'appel du collectif Bloc Ton Périph et de la coalition La Déroute Déroute. Leur objectif, contester et d'empêcher la reprise des travaux sur les 8 km de route restant à construire qui relieraient les autoroutes A9 et A75. C'est une aberration écologique pour ces activistes de Bloc Ton Périph et des nombreuses autres organisations présentes. Bloc Ton Périph est un collectif élargi créé il y a quelques mois qui dénonce un projet d'un autre siècle en contradiction majeure avec l'objectif zéro artificialisation nette des sols, projet contenu dans la loi Climat et Résilience. On commence tout de suite avec quelques extraits de la conférence de presse donnée le samedi matin sous le chapiteau qui abritait le camp de l'événement Bloc Ton Périph. Les membres du collectif SOS Oulala au micro dénoncent entre autres une parodie de démocratie de la part du département et de son président Kléber Mesquida.
Le département de l'Hérault, donc du coup ce qui met toujours en avant, c'est qu'il y a une consultation publique en 2014 dont les résultats étaient en faveur du projet. C'était en 2014, il y a 10 ans. Il y a une consultation publique plus récente, qui était en 2022, il y a un an. Où, du coup les résultats étaient complètement inverses. 80% des personnes qui avaient participé étaient contre la finalisation de ce projet. Et ce que ça dit, en fait, ça, c'est qu'effectivement, le temps avance vite, que ce projet est très vieux et que l'opinion publique a changé parce que la situation concrète a changé. En fait. Et maintenant, voilà, la situation climatique, la situation d'effondrement de la biodiversité fait qu'effectivement, la population voit les choses différemment. Que c'est vraiment voilà, quelque chose qui est une pensée du XXe siècle, qui est une pensée des années 80, une pensée des années Reagan, quoi, et que du coup, c'est complètement décalé avec ce que sont les réalités d'aujourd'hui. Et du coup, c'est une chose, voilà, il faut juste y mettre un terme, la responsabilité d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir le chemin vers des alternatives possibles pour déconstruire, en fait, ce modèle-là de mobilité, en faire un autre. Il y a des alternatives simples et immédiates qui sont de l'ordre de la densification et du cadençage des transports en commun. Et après, le fond de l'affaire, c'est comment on fait pour que les gens aient moins besoin de se déplacer. C'est tant qu'on sera dans une logique d'étalement, où du coup les gens doivent habiter loin, de là où ils travaillent, de là où ils vont à l'école, de là où ils font leurs courses, etc., de là où ils vont à l'hôpital, à payer les impôts et compagnie, et bien du coup ils seront obligés de prendre cette bagnole qui en fait est en train de nous tuer un peu tous en fait, pas un peu complètement. Et donc du coup c'est la responsabilité d'aujourd'hui, de 2023, c'est pas celle de 1988 de se dire l'avenir c'est de développer des grandes infrastructures routières. L'avenir, c'est comment on arrête ce système-là et qu'on commence à se donner les moyens de fonctionner différemment pour que ce soit du coup viable pour les gens qui habitent ici.
Donc pour les gens qui habitent ici, vous voyez qu'on est dans une très belle vallée qui est encore intacte. Ce terrain, c'est un terrain agricole. C'est un terrain un peu plus loin où vous avez pu voir le lien avec les pierres, cette énorme coulée là, qu'ils ont détruit la colline. Et ils ont d'abord arraché 30 000 arbres pour faire la partie du Mas de Gentil, et puis ensuite ils vont faire un pont, passer au-dessus de la Mosson pour faire le lien et détruire toute la colline qui est en face. Et c'est une vallée qui est magnifique, qui avait beaucoup d'agriculture, puisque là où il y a les pierres, ben, il y avait des vignes, il y avait 10 hectares de vignes, on les a déjà oubliés. Voilà, et c'est un exemple concret de ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire le grignotage systématique par nos infrastructures de ce qui est naturel et cultivé. Comment préserver cette vallée et comment lutter, et aussi au niveau juridique. On les voit moins, mais c'est vrai qu'elles existent depuis plus de 15 ans.
Ça a beaucoup été fait avec la mairie, mais aussi par les associations. Nous, on porte avec les associations des recours. Ces recours, ils sont sur les espèces protégées, puisque quand on parle biodiversité, au niveau juridique, malheureusement, on ne concentre que sur quelque chose, les espèces protégées. Donc, on se bat sur les espèces protégées. Il se trouve qu'il y en a 136 sur le tracé du lien. Et il se trouve que les recours ne sont pas finis. Lorsque Mesquida dit la semaine dernière sur France Bleu, c'est terminé, il n'y a plus de recours, eh bien non, il ment. Il y a des recours. Il y a un appel qui est en cours sur les espèces protégées parce qu'ils ont obtenu une dérogation qui est une autorisation en fait de détruire le vivant. Et cette autorisation de destruction du vivant, elle est exagérée. Et en plus, quand il dit Mesquida, il a encore menti parce qu'il a aussi dit on a toutes les compensations, on en a fait beaucoup. Mais non, les compensations, elles sont ridicules. Il y a la loutre d'Europe, ils sont en train de détruire toute la partie aquifère. Et puis, il y a le fameux glaïeul douteux. Alors, vous savez peut-être que c'est un petit bulbe, une petite fleur. Et bien, ils ont obtenu de pouvoir détruire 20, mais nous, on en a compté plus de 400. Donc, il y a un problème, y compris leur inventaire, et ça, ils ne veulent pas le dire. Ils font comme si tout était bien et qu'ils avaient... tout est conforme avec la loi. Non, ils ne sont pas conformes avec la loi. Il y a un droit de l'environnement en France. Il faudra tôt ou tard qu'ils le respectent. Et on ne peut pas juste détruire le vivant en disant que ça, tout va bien et qu'il n'y a pas de problème juridique. Donc j'étais là pour vous rappeler ça et je pense que René Revol reprendra.
Prise de parole de René Revol, le maire de Grabels.
Donc juste un mot pour dire qu'au nom de la ville de Grabels, naturellement, nous soutenons la mobilisation de ce week-end. La ville de Grabels a manifesté son opposition au lien lors du projet il y a 30 ans. Et depuis 2011, il y a plusieurs recours qui ont eu lieu. Le premier recours a abouti par la cour d'appel au mars 2013 en annulant le lien pour une raison fondamentale, c'est un défaut de consultation du public. Et donc, je vous rappelle, le lien a été annulé en 2013, donc il faut espérer, quoi. Bon, on peut la continuer. Donc ils ont organisé l'année suivante, une fois les élections municipales bien sûr passées, au cours de l'été 2014, une concertation publique qui s'est déroulée entre le 10 juillet et le 20 août, période d'intense vie sociale, comme on le sait. Et donc cette consultation, qui était en partie construite pour faire adopter l'ancien projet de lien, puisqu'on proposait en échange de faire des routes qui entouraient Combaillot, et donc c'était vraiment aberrant. Cette consultation a débouché sur l'avis majoritaire des gens disant qu'on reprenait l'ancien projet du lien. À partir de là, nous avons fait d'autres recours par la suite, dès 2015, et ces recours sont allés jusqu'à... On a perdu en première instance, on a perdu en appel, on est allé au Conseil d'État. Le Conseil d'État a refusé de trancher en disant qu'il renvoyait à la Cour d'appel le Conseil, donc c'est une bataille qu'on mène depuis des années, les derniers recours les a fait ensemble, ou parallèlement, pour être exact. Et actuellement, contrairement à ce qu'a dit le président du Conseil départemental la semaine dernière, les recours sont en cours. Et nous, on a déposé un recours, on est devant la Cour d'appel concernant les espèces protégées. Et les espèces protégées, d'abord parce que le recensement sur la base duquel il faisait, c'est un recensement de 2014, donc il y a plus de 10 ans, et il était faux. Et donc, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, concernant différentes espèces, à commencer par ce fameux glaïeul qui est aujourd'hui au centre du débat. Et aujourd'hui, nous sommes en attente de la décision de la Cour d'appel. Et si la Cour d'appel nous donne tort, on continuera à se battre et on ira devant le Conseil d'État. Donc tout ça, ça a été, à chaque fois, c'est des frais, mais c'est des batailles communes qu'on mène pour pouvoir bloquer ce processus. Dans les différents arguments qui sont avancés, toute une série d'arguments sont avancés, il faut en ajouter quelques autres. L'artificialisation des sols que représente le lien sur le territoire uniquement de Grabels, parce qu'à partir de la Mosson, c'est Grabels, c'est égal à l'actuelle artificialisation que constitue l'urbanisation de Grabels, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est très ancienne. Donc c'est un doublement de l'artificialisation des sols, au moment même où il y a des lois qui nous disent qu'il faut arriver à zéro artificialisation nette et qu'il ne faut plus développer l'artificialisation. Donc, d'ailleurs, si vous regardez cette loi, elle exclut les projets routiers. Si on intégrait les projets routiers, ils artificialisent autant que les habitations. Et ce n'est pas parce qu'ils font des bassins de rétention, gigantesques d'ailleurs, que ça... Deuxième argument, c'est que cette artificialisation va faire augmenter les risques d'inondation. À Grimbel, on est bien payé pour le savoir. Et donc, ça augmente les masses d'eau qui pourront avoir lieu. Et avec le changement climatique qui a eu lieu, je ne sais pas, en 2014, on a reçu 400 mm en 2 heures. Vous avez vu l'autre jour, sur la haute vallée de l'Orbe, c'est 600 mm en 2 heures. Donc ça augmente. Et 600 mètres en 2 heures, ça veut dire 1 mètre de plus en hauteur. Donc dans des maisons, on était à 1,80 m, maintenant on passera à 2 mètres. Donc il faut absolument, alors qu'on se bat pour faire diminuer ça, pour faire tous les travaux, en même temps qu'on fait des travaux pour aménager, actuellement, qui sont en cours, pour aménager les cours d'eau pour qu'ils puissent absorber cette eau supplémentaire, eh bien, on l'annule par cette artificialisation. Voilà, il y a plein d'arguments. Enfin, dernier argument auquel je tiens beaucoup, nous avons fait des explorations sur des nappes d'eau qui sont ici sous la Mosson. Et donc, il faut savoir que le lien passe dans le périmètre rapproché des forages. Et ces forages, ils apportent de l'eau potable pour les habitants. Donc, il y a un risque aussi de mise en cause de cette ressource en eau. Donc ça, c'est d'autres arguments. Voilà, et puis naturellement, on sera à vos côtés cet après-midi.
On continue cette conférence de presse avec la prise de parole de représentants de La Déroute des Routes, cette coalition des collectifs qui demande un moratoire sur les 55 projets routiers en cours en France.
C'est une mobilisation qui est soutenue par plusieurs organisations associatives, syndicales et politiques et également d'autres collectifs. Je vais vous donner la liste. Donc il s'agit d'Alternatiba, Extinction Rébellion, SOS Oulala, la gauche éco-socialiste, le comité local des soulèvements de la terre, l'UCL Montpellier, la CNT 34, la Solidaire, le NPA, Solidaire étudiant, Sud Éducation, la LFI, la LDH, ATTAC, le comité Nîmois des soulèvements, de soutien au soulèvement de la terre et la LPO. Au programme de ce week-end, donc on a prévu que ce matin, suite à la conférence de presse, il y aurait une conférence de la Déroute des Routes sur la question des réseaux de transport. Ensuite, à 14h, il y aura une manifaction intitulée « Nous sommes la Garrigue qui se défend ». Et ce soir, il y a 2 concerts qui sont prévus, il y a les Tabanards et Poplité. Demain, il y aura une assemblée des luttes à 10h avec différents collectifs en lutte contre des projets écocides. Et du coup, qui viendront présenter leur lutte. Et à 13h, il y aura une parade carnavalesque pleine de piquants qui s'appellera Opération Hérisson. Donc la lutte contre le lien, en fait, c'est pas une lutte qui est toute seule, isolée comme ça, contre un projet routier qui serait hors temps. Enfin, il est hors temps, mais c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique nationale. Et parce que des projets routiers, il y en a partout en France, des collectifs de lutte, il y en a partout en France, et que BTP, enfin le week-end Bloc Ton Péri, fait partie d'une saison d'automne de la Déroute des Routes, qui est une coalition de 55 collectifs de lutte contre les projets routiers. Et du coup, là, on va passer la parole à la Déroute des Routes.
Oui, alors moi je fais partie de la Déroute des Routes, mais il y a plein d'autres personnes que je vois ici qui en font partie. On est une coalition qui réunit aujourd'hui 55 collectifs en lutte contre des projets routiers partout en France, parmi lesquels des autoroutes, des échangeurs, des bouts de contournement. Nous on ne fait pas de hiérarchie entre les projets routiers parce qu'on considère qu'ils font tous partie du même système. Et que ce système du tout routier, donc je ne vais pas être très longue, ça a déjà été très bien expliqué avant, mais ce système du tout routier, en fait, nos luttes, elles font système de la même manière, parce que les arguments qui ont été développés là par le collectif SOS Oulala, ce sont les mêmes que ceux qui sont développés partout ailleurs par les collectifs, alors avec évidemment plein de spécificités locales et selon le type de projet et tout ça, mais en tout cas, les arguments qui sont donnés par les gens qui portent ces projets partout en France, gens qui défendent les routes partout en France, ce sont les mêmes partout. Et nous, on s'est rencontrés en janvier 2022, donc c'est assez récent, et au début, quand on a commencé à échanger, on s'est dit « Ah, mais c'est fou, quoi, parce que ce que vous nous dites là, enfin, ce qu'on se dit là, nous, en tant que collectif, on vit la même chose partout en France, quelle que soit la route contre laquelle on se bat. » Donc l'argument de la fluidification, l'argument du désenclavement, l'argument du développement économique, ces trois-là, juste, c'est une espèce de litanie complètement dépassée et derrière et assez creuse et vide, en fait, quand on essaye un petit peu de les pousser dans leur retranchement. Mais en tout cas, cette litanie-là, ces trois arguments, ils sont développés à l'envi par tous les porteurs de projets, de tous les projets routiers en cours, partout en France. Donc quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, ah oui, d'accord, donc la stratégie politique permanente de nous répondre, ces projets sont pensés au cas par cas, pour des besoins du territoire, pour des besoins de la population, en fait, cette stratégie, elle est très calculée et elle est très mensongère, elle est très manipulatrice, parce qu'en fait, non, ce n'est pas vrai. Ces projets ne sont pas pensés pour répondre à des besoins du territoire, ils sont pensés pour répondre à des logiques de développement économique, d'aménagement du territoire, qu'on développera après dans la conférence un peu plus longuement, mais en tout cas, ils sont pensés, les routes sont des objets politiques, et donc nous, dans la coalition, ce qu'on essaie de construire, c'est une réflexion et une opposition politique aussi à ces routes. Voilà ce que je peux dire assez rapidement. Là, on s'est rencontrés en janvier 2022. Depuis, on travaille ensemble régulièrement, donc avec cette grosse cinquantaine de collectifs. On a commencé à faire des actions ensemble en décembre l'année dernière. On s'est retrouvés avec 25 collectifs un peu partout sur des ronds-points en décembre pour demander au gouvernement de changer de chemin concernant les mobilités au moment où le Conseil d'orientation des infrastructures allait rendre un rapport concernant les financements à venir sur les projets routiers et autres projets d'infrastructures. Donc à ce moment-là, nous, on s'est mobilisés pour montrer qu'il y avait une volonté un peu partout que les investissements changent, parce que c'est une période un peu charnière nationalement. C'est aussi pour ça qu'on porte ce combat ensemble au niveau national, parce qu'on est à un moment où les routes sont devenues un objet de questionnement, parce que tout simplement, certains projets ne sont plus faisables, ni politiquement, ni financièrement. Moi, je suis de Rouen. Le projet d'autoroute à Rouen, il était estimé à 1 milliard hors taxe en 2015. Aujourd'hui, on nous dit que ce serait plus de 3 milliards, sa réalisation. Ça, c'est le cas pour plein de projets partout. De toute façon, comme toutes les enquêtes publiques et tous les dossiers datent parfois de 10, 15, 20, 30, parfois 50 ans. En fait, évidemment, les montants avancés, donc estimés à 18 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui sur 55 projets, ce montant-là, il est largement à la baisse. Donc aujourd'hui, il y a quand même un moment où même le gouvernement commence à se poser la question de est-ce que on va pouvoir toutes les faire ou pas. Alors non pas nous on croit assez peu au fait qu'ils aient une prise de conscience écologique, mais par contre tout simplement ils sont plus en capacité en fait de financer, et les collectivités ne sont plus en capacité de financer certains projets aussi parce qu'il y a des collectivités qui ne veulent plus le faire. Voilà, donc il y a ce moment un peu charnière. Donc en décembre, on a commencé à se mobiliser. Et l'année dernière, on a rejoint aussi la dynamique des soulèvements de la Terre. Et on a organisé la déroute, enfin notre coalition, et avec le mouvement des soulèvements de la Terre et de toutes ces luttes locales, deux événements contre la 69 en avril et contre la 133 à 134 en mai. Ces deux événements, ils ont rassemblé plus de 12 000 personnes. Et pendant ces deux événements, ce qui a été porté comme revendication par la mobilisation, c'était à la fois un arrêt de ces projets, mais aussi et surtout un arrêt de tous les autres projets. Et je finirai là-dessus. Nous, la proposition qu'on porte en tant que coalition, c'est un moratoire sur tous les projets routiers. Voilà, en fait, il faut réfléchir avant de bétonner, comme disent nos amis de la 69, enfin, de la lutte contre la 69, parce que là, on est dans un truc de fuite en avant. Des travaux, il y en a ici, il y en a sur la RN88 en Haute-Loire, il y en a sur la 69. Nous, on a trouvé des bornes de géomètres aussi, il y a deux semaines, là, dans la forêt à côté de Rouen. Enfin, en fait, les destructions, elles avancent. Et si on ne met pas un stop maintenant et qu'on ne réfléchit pas de manière systémique, politique, qu'est-ce que c'est que ces investissements dans les mobilités et c'est quoi les vrais besoins de mobilité et de développement économique localisé, pensé par les populations, pour les populations? Si on ne fait pas ça maintenant, après, ce sera trop tard. Et donc, on porte cette proposition de moratoire pour laisser le temps de la réflexion, voir si ces projets sont toujours cohérents avec les stratégies nationales de bas carbone, de zéro artificialisation, enfin, qui ne sont pas des objectifs que nous, on a fixés, hein. Ça, c'est des objectifs que l'État lui-même s'est fixé, et l'État continue à soutenir des projets qui ne lui permettront pas d'atteindre ses objectifs. Donc c'est pas logique. Nous, on demande un peu de rationalité, un peu de responsabilité. Et cette proposition de moratoire, cette semaine, on a été 8 organisations. Donc nous, la Déroute, France Nature Environnement, les Amis de la Terre, Greenpeace, le Réseau Action Climat, la Fédération des Usagers de la Bicyclette et Agir pour l'Environnement. Nous, on est allés ensemble vous rencontrer Clément Beaune jeudi matin. Ah, il y a la Bélorussie qui arrive. Et jeudi matin, on est allé rencontrer Clément Beaune et lui a commencé à nous présenter des petits critères pour dire, alors voilà, sur quels critères on pourrait annuler tel ou tel projet. Et nous, on a tenu ensemble la position de lui dire non, 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 mais nous, en fait, on ne veut plus négocier. On n'est plus là pour faire du cas par cas, on est là pour parler de politique. Nous, ce qu'on veut, c'est un moratoire. Et donc aujourd'hui, il y a une dizaine d'organisations environnementales, d'ONG nationales qui se rangent derrière cette position-là. Elle est soutenue aussi par plein de parlementaires. Et les mobilisations comme celles qu'on organise cet automne, qui sont organisées par les collectifs, elles permettent de, voilà, d'ancrer un peu aussi partout cette demande et de la porter de manière revendicative, à la fois pour suspendre les travaux en cours et les projets en cours un peu partout, mais aussi pour une réflexion plus politique et plus globale sur cette question du développement des infrastructures de transport.
Ouais, après on va arrêter de parler. Pour ajouter encore un truc sur le moratoire, c'est, en plus c'est quelque chose qui existe. En fait, il y a des pays voisins de chez nous, les Pays-Bas, au Pays de Galles, où ils ont adopté des moratoires sur les projets routiers, donc c'est pas non plus... quelque chose qui sort du chapeau comme ça et qui serait complètement infaisable. Il y a des départements en France qui ont pris un moratoire à l'échelle de leur département, des départements de l'Ouest de la France, donc le département de l'Hérault pourrait faire de même. On l'a dit entre les lignes, mais en fait la route, ce qu'elle permet, c'est tout le reste. Sans la route, il n'y a pas l'urbanisation, il n'y a pas le trafic, etc., etc., etc. Donc bloquer la route, arrêter de faire des nouvelles routes, c'est se donner, je répète, mais c'est se donner la possibilité de faire différemment et de faire adapter à ce qui sont les enjeux aujourd'hui des gens, de nous, de comment on va vivre aujourd'hui, de comment on va vivre demain. Je le redis encore, c'est un projet de notre siècle qui a 35 ans. Ce projet, il peut s'arrêter maintenant. Il dessert des villages très bien. On arrête là. Ils finissent leur échangeur, ils sont contents, il y aura plein de niveaux. Voilà, ils auront fait un truc vachement beau. Et maintenant, stop. Et du coup, on arrête de continuer à nourrir le monstre, le monstre de béton qui va après nous empêcher de vivre ici. C'est ça l'enjeu, c'est est-ce qu'on pourra vivre ici demain. Donc ce projet, il faut l'arrêter maintenant. On se mobilise ce week-end et on se mobilisera encore après, tant que ce projet ne s'arrêtera pas.
Ce week-end de mobilisation se voulait festif et familial. Il commençait, pour les plus courageux, par une vélorution, c'est-à-dire une manifestation à bicyclette, avec le point de départ donné à Montpellier à 9h30 au Pérou. Une manifestation cycliste pour rejoindre ensuite le site du bloc Tonpérif dans la matinée. Témoignage à chaud des premiers sportifs croisés.
Pardon, c'est pour la radio.
J'ai avec moi un cycliste qui est venu ce matin de Montpellier en vélo pour assister à ce week-end bloc Tonpérif.
Oui, absolument oui.
Et alors, vous êtes venu par où ?
Alors je suis venu par Grabel parce que j'étais en retard au rendez-vous du Pérou. Et je me suis dit je vais les rattraper par l'avenue de l'agriculture, tout ça... Et par Château d'Eau et tout, je me suis dit je vais les retrouver. Et en fait, je suis arrivé, je ne les ai pas vus, donc j'ai dû arriver. Enfin, je pensais être arrivé après eux. Et ils viennent à peine d'arriver, moi ça fait déjà 20 minutes, donc on peut dire que je les ai fumés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont fait du tourisme.
Ben non, mais on est parti là directement jusqu'au Pérou.
Ouais.
Tu vois, de ici là, en passant par. C'est quoi, Château d'Eau, tout ça, on est arrivé au Château d'Eau et. Par Grabel en fait. Et après, au retour, on est partis donc, tous ensemble. On était, je sais pas, une centaine, j'imagine. Et là, on est passé par Saint-Gély pour voir le magnifique échangeur.
Du coup, vous avez pu
voilà,
voir le...
Écocidaire et tout ça. Enfin, voilà. On est passé et sur des routes normales.
Cyclable.
Et des fois sur les pistes cyclables. Enfin, on n'a pas pris la 4 voies, là, tu vois.
Parce que la piste cyclable actuelle, elle est le long de la 4 voies. C'est ça, hein,
là. Il y a une piste cyclable, mais qui est incomplète le long de la 4 voies.
Ouais.
Et qui est bon, mais bon, elle est un peu compliquée quand même. Mais bon, ça aurait été marrant de prendre la 4 voies quand même.
Ouais.
Ça aurait été pas mal. Parce qu'à l'intérieur, dans Montpellier, c'était ça, on était sur la route quoi.
Mais ça crée quoi alors
Ah, c'est chouette.
C'était cool.
Ouais, c'est super. Bah ouais, là tu prends la place quoi. Voilà. Ouais.
Les automobilistes, ils étaient.
Ouais, ils étaient plutôt. Il y en avait qui nous klaxonnaient par soutien, quelques-uns. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas eu, enfin j'ai pas vu de moi personnellement, je n'ai pas vu d'automobilistes ronchons.
Ouais, voilà. Et vous étiez escorté par la police du coup, ou même pas?
Ouais,
si.
On était escorté par la police jusqu'à Saint-Gély, puis par la gendarmerie de Saint-Gély, voilà.
Et ils ouvraient la route devant vous?
Ouais, okay. Attends, oui enfin ils passaient devant, mais sinon non, il y avait une dizaine de bénévoles de Vélocité, regarde. Ouais. Qui faisaient la sécurité. C'est eux qui bloquaient les chaque fois, à tous les carrefours, ils allaient causer aux automobilistes pour leur dire qu'on passait, qu'est-ce que c'était. Et il y avait aussi deux sonos, une à l'arrière, là, et une à l'avant avec la belle...
Ouais, j'ai vu la bestiole, la montre.
La montre religieuse, là.
Ouais.
Voilà. À l'arrière, c'était plutôt techno, quoi. Ouais. C'était plutôt techno parade. Et à l'avant, chill, quoi, tu vois.
Et du coup, cet échangeur, toi, tu l'as vu?
Ouais.
C'est quoi, alors? Ça ressemble à quoi?
Bah, c'est énorme, quoi. C'est la roche à nu sur, sur des, je sais pas, quelques hectares, quoi.
Ouais.
Et ça ressemble à de la pierre, pierre à nu, quoi, avec quelques talus terreux où je pense qu'ils vont planter quelques arbres qui vont mourir à la prochaine sécheresse.
Ah oui, ils replantent des arbres, bah, c'est ça?
J'imagine.
J'ai vu qu'il y avait des gens avec des panneaux. Ici, on arrache des arbres, voilà. Parce que c'est toute la com, c'est sur les arbres.
Et ici, là, bah, le lien, bon, à la radio, on ne peut pas le voir, mais il passe juste là, quoi. Et sur la photo aérienne, tu le vois vachement. Puis tu vois vraiment une trace blanche de calcaire, là, qui balafre tout ce bois, là. Le seul petit bosquet qui est dans ce coin-là, là. Ouais. Et normalement, il y a aussi un gros échangeur à Combayo, mais ça, je ne sais pas où il va être.
Après une pause repas bien méritée et des discussions au soleil, une batucada sonne le rappel pour se préparer à partir pour la manif action de l'après-midi. Une manif voulue par les organisateurs comme un moment pour valoriser et pour défendre la biodiversité de la garrigue environnante.
On va partir en manif, on va aller défendre la garrigue. Si vous pouvez vous approcher.
Merci à tous d'être et toutes d'être aussi nombreux aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, nous héritons d'un monde empoisonné. Ce monde, il repose sur un tramage d'infrastructures, et notamment d'infrastructures routières. Un des piliers du capitalisme, c'est le transport et les routes. Et le lien est un parfait exemple de cette pensée-là, de ce monde des années 80. Et il est le pur produit de cette époque et de cet héritage qui est obsolète. Le lien, c'est des hectares de nature saccagée, c'est un plateau de biodiversité extrêmement riche. C'est des terres agricoles, des zones humides qui vont être saccagées, c'est des collines qui vont être dynamitées. C'est des millions de kilomètres de mètres cubes de remblai. Mais surtout, en fait, c'est un projet qui en cache un autre. Au-delà de son impact catastrophique, en fait, c'est un projet qui va en permettre beaucoup d'autres. Tout ça au nom d'un mensonge qui est la fluidification du trafic. Ne nous mentons pas, en fait, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. C'est comme les autruches qui mettent la tête dans le sable, ça n'existe pas. Les routes qui réduisent les embouteillages, ça n'existe pas. On le sait depuis les années 60, c'est le trafic induit. Toutes les routes sont saturées entre 3 et 10 ans maximum. Et plus ça va, plus le délai est court. À Houston, ils ont construit jusqu'à 36 voies d'autoroute. En ajoutant une chaque année en disant celle-là, c'est la bonne. Elle va réduire les embouteillages. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche nulle part dans le monde et ça ne marchera pas ici non plus. Donc ce n'est pas une route écologique au service de la population, c'est une route industrielle et capitaliste qui va permettre la construction de zones commerciales, 70 hectares de zones commerciales, 20 hectares pour les studios du Pixar-Loup qui sont des studios de cinéma, l'ouverture d'une carrière Lafarge. En fait, c'est surtout un nœud qui va permettre l'urbanisation de tout le nord de Montpellier. Jusque-là, le nord de Montpellier est préservé grâce au petit pont de Grabel et qui empêche les camions de passer. Ouais, on peut faire une petite ode à ce petit pont miraculeux qui nous épargne les camions. Le sud de Montpellier est entièrement construit. Et ben maintenant, ils veulent attaquer le nord parce que Montpellier veut se développer toujours plus, avoir un taux d'attractivité toujours plus grand et se développer et déborder sur toutes les périphéries. Le lien, donc l'urbanisation. Et ça veut dire l'asservissement de tous nos villages à la métropole. Ça veut dire un changement profond des modes de vie. Nous n'aurons plus des villages, nous aurons des banlieues dortoirs de la métropole de Montpellier. Mais c'est surtout aussi une liaison autoroutière entre l'A9 et l'A750. Le lien, aujourd'hui, en fait, il existe déjà. Le projet de relier les villages entre eux, c'est déjà fait. Ces portions, ces 8 km là, qui restent, ça va relier les autoroutes. Et c'est ça qui va faire que ça va devenir un axe principal européen pour les camions, pour relier l'A750 à l'A9. On est dans une époque où il y a une explosion du trafic de marchandises par bateau, où l'empire logistique se déploie partout. Et le lien est un excellent élément de cette logique, puisqu'il permet de faire de la logique du dernier kilomètre pour les entrepôts logistiques notamment, de faire le lien entre les très grands flux de marchandises au niveau mondial et les derniers kilomètres qui nous relient avec nos petits colis qu'on reçoit magiquement dans notre boîte aux lettres. Mais ces colis, en fait, ils ont un impact écologique et social très important. Tout ça à l'heure où l'essence est à 2 euros, en fait, et qu'il y a 13 millions de personnes qui sont en précarité de mobilité. Le département et ce projet nous enferment dans une logique du tout voiture qui morcelle les habitats, change les modes de vie. Les camarades déçus qui ont développé ce matin une idée passionnante qui est l'idée de l'enclavement positif. L'enclavement positif, c'est la localisation des activités, c'est avoir des villages qui sont des villages dynamiques avec de l'emploi, des lieux de sociabilité, des services publics. Et du coup, c'est pour ça que nous, on se bat. Et on est la lisière, en fait. On est la lisière entre le monde de la campagne et le monde de la ville. Et on refuse que la métropole s'étende encore au-delà et transforme radicalement nos façons de vivre. C'est 8 petits kilomètres. Mais en fait, ils ont des impacts en chaîne très importants. Le projet peut s'arrêter là. Aujourd'hui, à travers cette manifestation, nous récupérons nos communs et notre avenir et nous expérimentons une écologie de la fermeture. Et nous devons avoir le courage de fermer et de renoncer à des infrastructures qui nous condamnent à terme. Ces projets ont des conséquences en chaîne importantes et on pourrait imaginer plutôt des politiques publiques et des politiques de mobilisation du démantèlement plutôt que de la construction d'infrastructures.
Alors après, vu qu'on aime bien thématiser, histoire que ça soit un peu fun et tout, aujourd'hui, l'objectif, c'est la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes la garrigue qui se défend.
Cette cohabitation entre les humains et la nature, elle peut être positive. Et ce qu'elle a créé ici, c'est une richesse qui est juste incroyable. Et après, il y a eu un accident de parcours d'à peu près un petit siècle, où du coup, d'en haut, il a été décidé que, quels que soient les territoires, ce qui était vachement bien, c'était de mettre du béton, c'était de faire des routes, c'était de construire des trucs en dur, et c'était de faire la même chose partout, quel que soit le territoire. Et du coup, là, la garrigue, elle en a pris plein sa gueule, hein, pour le coup, et pas qu'elle. Les gens qui habitaient dedans, ils en ont pris plein leur gueule aussi, parce qu'on habite dans des endroits, maintenant, qui sont laids, on habite dans des actes toutes moches, on habite dans des barres d'immeubles qui sont dégueulasses, il fait trop chaud. Et la question qui se pose maintenant, eh bien, c'est de ce monde de merde. On le renverse et on reprend le fil là où il a été abandonné. On se retrouve avec la garrigue, on reprend le fil de l'Alliance. Et ensemble, on va continuer à inventer de la biodiversité qui sait se défendre, la biodiversité qui est riche. Et dans cette biodiversité, il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a des chauves-souris, il y a des plantes et il y a des humains. Et on va faire ça tous ensemble. On va aller défendre la garrigue et nous défendre nous-mêmes par la même occasion. Et c'est comme ça qu'on pourra vivre demain, ici, dans notre territoire, en s'adaptant à ce territoire-là. On va marcher. Du coup, là, c'est la partie maintenant technique. On va marcher. Parce que du coup, si on ne veut pas de route, eh ben, il faut marcher. Donc, on va descendre par là, bim, on va prendre la route. Il y a 4 km jusqu'à arriver dans la garrigue. Parce que l'avantage que le lien ne soit pas fait, c'est que la garrigue, effectivement, est assez peu accessible. Et c'est l'enjeu qu'elle le reste. Et quand on va arriver là-bas, il y aura différents ateliers. 4 ateliers pour aider la garrigue à se défendre, parce que même si elle se défend bien, si elle a ses piquants et tout ça, c'est vrai que face aux tractopelles, les piquants, ça, c'est un peu limité. Et donc on va se répartir en 4 ateliers pour faire 4 actions naturalistes des terres. Vous avez derrière moi des grands bambous avec dessus des animaux. En fait, ce sont des espèces protégées qui vont être détruites par le projet du lien, si le lien, les habitats d'espèces qui vont être détruites si le lien se fait. Il y a 136 espèces qui seront détruites, plus 5000 qui ne sont pas protégées, mais qui seront détruites quand même. Bon, il y a 4 couleurs, quoi. Hein. Et du coup, ça fait 4 ateliers. Il y a un atelier qui est plutôt à base de lézards, un atelier qui est plutôt à base de trucs un peu aquatiques, il y a un atelier qui est plutôt à base de plantes, et il y a un atelier qui est plutôt à base de chauves-souris.
Je suis donc avec des militants Greenpeace avec des t-shirts et des pancartes. Ici, on arrache les arbres, le climat n'attend pas, qui reprend la com donc, du département de l'Hérault. D'ailleurs, c'est une parodie, hein, il y a écrit département de l'Hérault, pour mettre le doigt justement sur l'hypocrisie, voire le double discours du département sur la question des plantations d'arbres et de la compensation en fait, plus globale du projet.
Ouais, tout à fait. Bah oui, en plus avec le slogan « le climat n'attend pas », en même temps qui défonce 8 km de garrigue et de biodiversité pour faire une route, donc couler du béton et artificialiser le sol. On trouve ça, oui, effectivement assez hypocrite. Et en plus, aujourd'hui, en fait, chaque arbre compte et l'âge des arbres compte aussi. Donc, en planter, déjà, ça ne suffit pas. Et en plus, ça ne justifie absolument pas qu'on en arrache, comme c'est le cas aujourd'hui sur le tracé du futur lien.
J'imagine la diversité aussi. Enfin, on ne replante pas une forêt telle qu'elle existait avant de se faire arracher en général.
Oui, exactement. Il y a des questions de diversité des espèces et il y a des questions d'âge. Et au niveau de la captation de CO2, ça ne donne pas la même chose. Et donc, ça ne se réinvente pas en fait, de planter des forêts telles qu'elles sont depuis certaines des siècles, voire des milliers d'années.
Et du coup, Greenpeace, au niveau de Greenpeace Montpellier, là, sur ce projet, vous, c'est quoi qui vous a amené dedans et l'axe sur lequel vous...
Nous, on est sur tous les axes. De toute façon, il y a des tas de raisons pour lesquelles on est contre ce projet. Nous, ça fait partie de notre campagne transport. On lutte notamment contre le tout voiture, donc c'est aussi ce vers quoi ça va de faire de plus en plus de routes, de plus en plus de trafic routier avec le CO2 que ça génère, etc. Et puis c'est la même campagne aussi avec laquelle on est mobilisé contre l'extension de l'aéroport de Montpellier qui est en cours.
Voilà, tu peux nous en dire deux mots hein, sur ça?
Oui, c'est un nouveau projet d'étendre l'aéroport, principalement pour augmenter le nombre de liaisons Paris-Montpellier quotidiennes, alors que c'est 3h30 de TGV, comme chacun sait.
Et
qui viennent de faire une nouvelle gare, voilà. Donc évidemment, c'est extrêmement contestable. Et puis avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on en est encore loin, et encore plus si on agrandit notre aéroport.
Greenpeace, c'est une organisation quand même reconnue au niveau international. Est-ce que ça vous permet d'avoir une oreille, ne serait-ce que dans les instances de la mairie ou de la métropole ?
Un peu plus que les autres. Après, ce que ça devient réellement, c'est une autre question. Mais oui, on est un peu plus écoutés et reçus par les élus quand on remet des pétitions, par exemple, quand on veut leur parler. Après, est-ce que c'est pris en compte ? C'est une autre histoire.
Et donc le fait, par exemple, de venir vous greffer, enfin pas vous greffer, mais en tout cas de vous positionner clairement sur une lutte comme celle-ci, qui pourrait être assimilée à... une lutte d'éco-terroriste. On sait que ça fait du... ce qu'on sait, il y a une ZAD ici, etc. Du coup, ça met un peu de poids aussi, de crédibilité pour être entendu, être respecté en tout cas.
Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. On ne fait pas le poids plus que les autres. C'est juste le nombre qui fait la force et la convergence, surtout entre les différentes organisations. On n'a pas tous et toutes les mêmes modes d'action et les mêmes campagnes, mais on se rejoint tous sur le principal. Donc c'est le nombre et la convergence qui font la force de la lutte.
Merci.
Allez-y, installez-vous comme vous pouvez sur le côté. Le but, c'est d'essayer de faire un cercle pour qu'on vous explique nos ateliers.
Alors, maintenant que on a des super petits groupes de couleurs, je vais essayer de vous expliquer à peu près clairement ce qu'on va faire. Du coup, nous avons 4 ateliers. Pour un atelier qui va être l'atelier où il y a des lézards et une loutre, eh bien, ce sera un atelier mare. Vous allez donc, du coup, vous allez améliorer une mare existante qui a été involontairement creusée par les engins de chantier. Et ça a fait venir plein de petites grenouilles dedans. Donc, on va les aider à y rester pour toujours. Il y a des outils qui sont dans les pieds que l'équipe blanche va récupérer. Et il ira faire une mare. Nous avons derrière, dans le prolongement du chemin, des lézards. C'est l'équipe verte. Et un lézard, sa vie dans un mur en pierre sèche. Donc, vous allez porter des pierres, vous allez en chier, mais les lézards, ils seront hyper contents. L'équipe rouge, même si c'est pas du tout ce qu'il y a sur ces petits panneaux, ah si, il y en a un là, voilà. L'équipe rouge, elle a pas peur des chauves-souris, parce que c'est complètement con d'avoir peur des chauves-souris, parce que c'est très sympa comme animal. Donc, elle va aller protéger les arbres dans lesquels nichent des chauves-souris et qui doivent être abattus. Et ensuite, l'équipe, quelle couleur ? Jaune, qui est à ma gauche, en fait, elle va s'occuper des plantes. Elle va faire un truc très mignon. Elle va planter ces magnifiques glaïeuls douteux en carton que je tiens dans ma main gauche. Ils sont des plantes protégées qu'on vous racontera, mais en gros, le département en avait trouvé 20. On a refait un comptage, on en a trouvé 286. Puis un autre comptage qui a été fait, là, on est à 472. Donc du coup, on va aller symboliser la présence de tous ces glaïeuls en les plantant pour que ça fasse une jolie photo. Et puis après, vu que c'est quand même pas hyper écolo de laisser des cartons, après on les ramassera et on les remettra dans le petit carton. Mais voilà. Donc du coup, je redis, nous avons les chauves-souris là qui vont dans les arbres. Nous avons les amarres qui creusent. Nous avons les cailloux qui se portent. Et nous avons les glaïeuls qui se plantent. Si vous pouvez vous répartir de façon à peu près équitable, c'est-à-dire pas tout le monde qui plante les glaïeuls, il faut des gens qui portent les cailloux quand même. Voilà.
c'est les seuls arbres suffisamment gros pour avoir ce qu'on appelle des cavités, c'est-à-dire des trous qui se font soit par l'action d'oiseaux qu'on appelle les pics, qui vont creuser des trous dans ces arbres chaque printemps, ce qui va faire des maisons en gros pour tout un tas d'animaux, d'autres oiseaux, mais aussi des mammifères dont les chauves-souris. Je reviendrai sur les chauves-souris. On a la rivière de la Mausson qu'on a dû contourner là parce que c'était un peu compliqué de passer par là-bas qui a impacté. Mais en gros, vous avez voilà, tout un cortège d'espèces. Et ici, on se focalise sur cet atelier sur les arbres qui accueillent des espèces protégées. Je ne sais pas si vous pouvez voir pour certains d'entre vous, il y en a un des petits là. Il a un trou tout rond à 5, 6 mètres, enfin non, peut-être 7, 8 mètres.
Oui.
Voilà. Vous avez aussi ici deux très vieux mûriers qui sont complètement creux. Tout ça avec des écorces qui sont décollées, ce qui fait des petits espaces tout fins dans lesquels certaines espèces qui ont des fissuricoles, qui aiment bien se caler dans les fissures pour être bien à l'abri des prédateurs, vont se caler. Donc ça concerne à peu près une douzaine d'espèces de chauves-souris, plus ou moins abondantes dans le coin. Et ici on a choisi comme emblème la pipistrelle de Natusus, alors c'est un nom un peu compliqué, pour une petite chauve-souris qui pèse 5 grammes, mais qui est la plus grande migratrice d'Europe, c'est-à-dire que c'est une espèce qui passe l'été, beaucoup d'individus passent l'été en Europe du Nord, en Europe de l'Est, et viennent ici en hiver. En hiver, en fait, elles arrivent déjà dès septembre, donc elles sont là, ici, et elles utilisent ces arbres pour passer l'hiver. Et c'est assez important pour nous parce que le département, dans ce projet, il s'est accordé le droit de détruire ces espèces protégées, et le droit français le permet, malheureusement, dans certains cadres bien précis juridiques, c'est-à-dire que il faut pour avoir cette autorisation, éviter un maximum les impacts, réduire les impacts au cours du chantier, et ce qui reste comme impact, il faut le compenser. Alors ça, c'est une bien jolie histoire, c'est souvent beaucoup moins, assez loin de la réalité, cette théorie-là, mais en tout cas, elle fait que le département, s'il veut engager les travaux ici, il doit abattre ses arbres il ne peut le faire que pendant l'automne où on considère que c'est la période de moindre impact pour les chauves-souris. Parce qu'il y a des espèces qui passent l'été, qui font leur reproduction, qui est les femelles qui élèvent leurs petits, donc c'est considéré comme très sensible. Ils y passent aussi l'hiver, elles sont en hibernation, donc elles sont susceptibles, si elles sont en hibernation dans l'arbre, de mourir parce qu'elles ne peuvent pas forcément s'envoler au moment de l'abattage, elles n'ont pas le temps de se réveiller de leur hibernation. Donc il y a la destruction directe d'individus. Donc ils ont ce droit de destruction dans un certain cadre et qui peut se faire entre le 1er septembre et le 15 novembre. Si on arrive à protéger ces arbres avant le 15 novembre, eh ben, on gagne un an en gros. Ils sont obligés de le faire l'année d'après. Pour l'instant ils ne sont pas arrivés. Il y a une semaine ou deux, ils sont venus abattre un arbre au bord de la Mausson. Donc on est un peu sur les dents, on va dire, un peu, on fait attention. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc pour protéger ces arbres, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ?
Donc en fait, comme les écosystèmes ne se compensent pas, on ne va pas les laisser détruire même s'ils ont fait un gros chèque à la fin. En fait, le principe, c'est qu'on va tirer des filins entre les arbres. Donc on a deux grandes échelles, trois brins qu'on va poser parce que ici les arbres, ils n'ont pas beaucoup de branches pour se suspendre. Donc on va faire autrement. Dans la longueur, comme ça, parce qu'en fait, si on le fait comme ça, il suffit qu'il passe sur un camion et qu'il coupe tout. Donc on va tendre des câbles acier par petits bouts. On va essayer de faire des pattes trop grandes longueurs pour quand même les emmerder vraiment pour les couper et le mettre le plus haut possible. Voilà. C'est ça le
principe. Dans ta poche arrière. Ta poche droite.
C'est la porte qui cherche la plus.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a une autre?
Ah. Ok.
Du coup, on est devant un tas de cailloux et de gravats, un petit peu, en bas d'une colline avec une file de gens assez impressionnante qui se passent des seaux et des cailloux à la main, c'est ça ?
C'est ça. Ils font une chaîne pour construire un mur en pierre sèche.
Ouais.
À peu près en travers du chemin qui est, en gros, si j'ai bien compris, sur l'itinéraire du futur lien. Et un mur en pierre sèche parce que c'est l'habitat des lézards. Et que les lézards, ça fait partie des espèces protégées fréquentes et qu'il faudrait sauvegarder. Donc, okay. D'où l'idée du mur en pierre sèche.
Il faudra aller compter les lézards une fois que le mur sera là, quoi.
Voilà.
Ouais. Et c'est là-haut.
Et c'est là-haut.
D'accord. Et là, on est sur le tracé, a priori, hein, c'est ça.
Oui, c'est ce que j'ai compris.
Ouais. Bon, bah, je vais remonter.
On recommence ou quoi?
Bah, on apparemment, on refait.
Laisse-les là.
On
regarde, laisse-les là. Et que...
Il y a peut-être intérêt à faire tomber la terre qui est là-haut. Ouais.
En train de tomber la mieux. Terre, on arrive. Bah sinon, après, avec des seaux, on peut peut-être entorter la terre.
Donc, on fait tomber la terre, hein, c'est ça? Plutôt, ouais.
Est-ce que vous devez faire une digue?
Ouais.
Ouais, par exemple,
avec des seaux.
Ouais.
Ça, on ramène tout ça avec des pierres, je pense. Voilà, ouais. Hein, ce sera plus joli. Hein, avec des pierres.
Et donc, bravo pour la mare, du coup, c'est une
hein. En plus, il y a un petit pleuve maintenant, ouais. Pour que ça marche.
Vous avez fait un super chemin, donc l'eau, elle va s'écouler naturellement encore plus facilement jusqu'à la mare, ce qui aidera bien les petites patraciens à se développer là-dedans.
En plus, moi, j'avais compris que c'était déjà bien fait et tout. En fait, non, pas du tout, quoi. Ils ont juste...
ratiboisé, ouais.
Ils ont ratiboisé, mais finalement, c'est pas plus mal. Ça fait des milieux ouverts, c'est mieux pour la biodiversité. Tu sais, des fois, tu viens à Montpellier entre deux fois et puis ouais. T'as une autoroute de plus. Hein. Ouais,
ouais. Là, il fait les chansons préliminaires. Là.
Cette journée de samedi 14 octobre se terminera en danse et en chant pour ceux qui ont encore de l'énergie autour des groupes Poplité et les Tabanards. Avant de dormir pour préparer au matin une journée du dimanche encore bien chargée. Une assemblée des luttes est organisée le matin et une manifestation blocage prévue pour l'après-midi sous la forme d'un carnaval et de sa mascotte, le hérisson. Mais finalement, cette journée du dimanche sera marquée par un changement de dernière minute. Le blocage de la 2x2 voies qui relie Saint-Gély et Montpellier a été annulé. Faute d'effectifs suffisants et aussi face aux dispositifs mis en place. Les quelques 200 personnes présentes ont passé l'après-midi survolées par l'hélicoptère de la gendarmerie et de nombreux véhicules sillonnaient les routes et les bois alentour. Action annulée donc au profit d'une autre action plus symbolique sur le site des travaux pour dénoncer la communication écologiste hypocrite du département, ce qu'on appelle du « greenwashing ». Des images et le récit détaillé de cette journée sont relayés, si vous le souhaitez, sur la page Facebook du collectif SOS Oulala, ainsi que sur celle de la Déroute des routes, où vous pourrez aussi consulter la carte des autres événements organisés dans l'automne et retrouver quelques chiffres et arguments autour de cette question cruciale de politique publique. Alors que des recours juridiques continuent encore d'être posés un peu partout en France pour tenter de stopper les projets routiers et demander un moratoire sur ces travaux. La fin de semaine sera encore marquée avec cette actualité. Des milliers de personnes sont en effet attendues au grand rassemblement prévu du côté de Toulouse ce week-end pour manifester contre le tronçon autoroutier de l'A69 entre Toulouse et Castres. Une affaire à suivre donc, à très vite sur les ondes de Radio Escapade. Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.